à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Chers auditeurs, bonjour. Antoine d'Aragon, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'être venu pour ce troisième entretien. Je rappelle en deux mots que vous avez eu une carrière chez Airbus où vous aviez en charge notamment un certain nombre de pays africains et aussi un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Et ça vous a amené à beaucoup voyager en Afrique, et notamment au Soudan, dont vous aviez la responsabilité, où vous vous êtes déplacé plus d'une vingtaine de fois, m'avez-vous dit. Donc c'est un pays où vous avez noué des contacts, où vous avez encore aujourd'hui un certain nombre de contacts, et que vous connaissez bien pour l'avoir visité pendant 20 ans de votre vie professionnelle. Et donc c'est à ce titre que nous avions parlé des... difficulté qu'il y a depuis 2023 avec cette guerre civile horrible et ce génocide au Darfour dont pas grand monde ne parle malheureusement, mais qui est bien réel au Soudan. Et je voudrais qu'on aborde aujourd'hui un autre aspect du Soudan, qui est le Soudan du Sud, puisque comme vous le savez mieux que moi, en 2011, le Soudan s'est coupé en deux. Le Sud a pris son autonomie. La caractéristique, c'est que le Sud est à 60% chrétien, donc forte culture chrétienne, alors que le Nord est principalement dominé par des Arabes, pas exclusivement, mais par des gens qui se revendiquent de la culture arabe, de la langue arabe, qui parlent l'arabe, et qui sont musulmans. Donc entre le Sud et le Nord, il y a évidemment des conflits de frontières, des conflits de territoires, mais je voudrais aujourd'hui qu'on parle de la spécificité du Sud, parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais c'est l'occasion de le rappeler, l'ONU a classé le Soudan du Sud comme le pays le plus pauvre sur le plan du revenu par tête d'habitant, hein, des fameux indices qui permet de mesurer la richesse des États. Donc c'est un pays extrêmement pauvre, qui est dans une misère épouvantable, et qui est également, qui sort d'une guerre civile qui a duré presque 10 ans. Donc c'est un pays qui souffre beaucoup, qui est méconnu. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Je pourrais vous dire plein de choses par le Soudan, mais je pense qu'il serait peut-être bon de commencer par en rappeler un tout petit peu l'histoire. Alors, comme la partie du Nord, le Soudan du Sud avait été conquis par l'Égypte de Mehemet Ali, au début du 19e, et a fait partie de ce qu'on a appelé ensuite le condominium anglo-égyptien sur le Soudan, qui s'est terminé en 1956. Alors, si on part ensuite sur la période, je dirais,
fin du 20e,
colonial, oui. Post-condominium, nous avons trois périodes. Alors, on pourrait d'abord parler de la première guerre civile, qui va de 55 à 72, c'est-à-dire de l'indépendance, mais un petit peu avant l'indépendance, à 72, et qui avait débouché sur l'instauration d'une région autonome. Et cette région autonome qui a duré de 72 à 83. Et alors, le Sud avait donc négocié une certaine autonomie par rapport au Nord, notamment pour l'application des lois, etc., puisque comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le Sud est à 60% chrétien, 20% animiste et 20% musulmane. Les animistes étant d'ailleurs des animistes d'inspiration chrétienne pour beaucoup.
Oui. Mais qui ont également une approche un peu en déifiant ou en reconnaissant les animaux et les plantes, etc., enfin dans la logique animiste, mais se revendiquant toujours du Christ et du christianisme.
Voilà. Alors, donc il y a ensuite cette période 72-81, qui est une période, je veux dire, 83, qui est plutôt une période assez calme, et... le président du Soudan de l'époque, Nimeri, remet en cause cette indépendance, cette autonomie, et également remet en cause le statut juridique, c'est-à-dire qu'il a l'intention de soumettre au même droit, notamment au droit islamique, des régions qui pour l'instant lui échappaient. Donc ça débouche sur la deuxième guerre civile, qui court grosso modo de 83 à 2005, la grande figure du Sud pendant cette période-là étant le fameux John Garang. Et John Garang est donc au moment de l'indépendance, au moment de la restauration de l'autonomie en 2005, c'est John Garang qui se trouve donc à la tête du Sud-Soudan. Mais malheureusement pour John Garang, il meurt très rapidement après, John Garang étant de l'ethnie Dinga. Et donc il y a une deuxième période d'autonomie qui court de 2005 à 2011 et qui débouche sur un référendum d'autodétermination qui choisit à 98 ou 19%
l'indépendance
pour le Sud-Soudan. Alors nous avons à ce moment-là, le pouvoir revient au successeur de John Garang, qui est Salva Kiir. On le voit avec un chapeau,
oui,
un peu comme celui que vous portiez, monsieur, tout à l'heure en entrant.
Me protégeais de la pluie.
Qui est toujours de l'ethnie Dinga, avec un vice-président qui est monsieur Riek Machar, qui est de l'ethnie Nour. Alors, effectivement, il y a, chez ces deux personnalités rivales, une exploitation des rivalités ethniques. Et on voit un petit peu ça dans le Nord-Soudan, entre
le Darfour et les...
entre Al-Burhan d'un côté et Daglo et Métis de l'autre. Daglo et Métis étant un arabe un peu moins pur que monsieur
Al-Burhan.
Al-Burhan. Et donc on a une troisième guerre civile après les deux premières, donc 55-72 et 2003-2005, on a une troisième guerre civile qui commence, mais non plus une guerre civile nord-sud, mais je dirais une guerre civile intramuros, qui est d'ailleurs le propre des guerres civiles, dans le sud même, entre les supporters de Salva Kiir et les supporters de Riek Machar.
Et il faut dire que ces guerres civiles au nord, on en a déjà parlé la dernière fois, mais au sud, c'est à peu près du même tonneau, si je puis dire. Ces guerres civiles sont extrêmement meurtrières, c'est-à-dire que c'est pas du théâtre, c'est sanglant. Donc ça frôle parfois le génocide entre ethnies. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez constaté, vous, dans vos déplacements ?
Alors, je n'ai pas été
confronté
très longtemps que je ne suis pas allé au Soudan, le Sud-Soudan. Mais par contre, c'est quand même des régions du monde où la vie du prochain a quand même beaucoup moins d'importance que dans nos sociétés occidentales. Le fait de savoir que des villages sont affamés, que les femmes sont violées, que les gens sont tués, ça n'émeut pas grand monde. On veut le pouvoir et on est prêt à peu près à tout pour l'obtenir. Je crois qu'on dit qu'aujourd'hui, sur les 12 millions de Soudanais du Sud, il y en a 75% qui vivent dans ce qu'on appelle un risque d'insécurité alimentaire. On ne parle pas de famine, mais ça recouvre probablement des famines dans certains cas, où le risque d'y sombrer très rapidement dans d'autres. On est compté, les trois quarts de la population.
75% de la population vit au bord de la famine.
Ce sont des gens qui sont dans une...
C'est pas par hasard si l'ONU l'a classé comme le pays, parmi les 193 pays pris en compte par l'ONU, c'est le dernier pays en termes de niveau de vie par habitant.
Et alors, on se trouve en plus aujourd'hui à confronter à des phénomènes terribles. C'est que d'une part, le Soudan du Sud, donc 90% du budget de l'État, était représenté par le pétrole. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on a un pays extrêmement pauvre qui pourrait être un pays relativement riche.
Assis sur un tas d'or.
C'est-à-dire, il y a un potentiel agricole qui est important. dont on peut parler, si vous
oui,
voulez.
Oui, ce ne sont pas des zones désertiques, il faut le dire. Le point culminant, je crois, du Soudan du Sud est à plus de 3000 mètres.
Il est à plus de 3000 mètres.
Donc il y a des zones quand même qui sont très boisées et très verdoyantes. C'est à la frontière avec le Kenya, ce sont des plaines très riches. Donc il y a un potentiel, et malgré tout, il y a tout ce pétrole. Je crois que le Soudan du Sud, vous me corrigerez si je me trompe, mais représente 85% de la production de pétrole totale du Soudan, à l'époque où il n'était pas dissocié, était dans le Sud. Donc le Sud a une réserve de pétrole énorme, en réalité.
Alors, on va essayer de prendre les choses en deux temps. Prenons les ressources naturelles. Les ressources naturelles, agricoles, vous avez, je dirais, deux arrivées d'eau. Vous avez le Nil, blanc, et un de ses affluents s'appelle le Bahr el-Ghazal. Le Bahr el-Ghazal se jetant dans le Nil blanc. Et bien entendu, vous avez de l'eau partout. Alors, l'eau, les territoires ne sont pas forcément faciles à exploiter, parce que vous avez également des marais. C'est d'ailleurs à cause de ces marais qu'on avait songé, il y a un certain nombre d'années, projet qui remonte à la fin du 19e, au percement du fameux canal de Jonglet, qui était un bypass permettant justement d'assainir les marais qui sont autour du Nil Blanc, de permettre d'éviter l'évaporation des eaux du Nil, d'améliorer les ressources en eau en aval, c'est-à-dire au Soudan et en Égypte. Mais vous avez un pays potentiellement riche au point de vue agricole.
Monsieur Darugon, malheureusement, notre temps s'écoule trop vite. Je vous propose de reprendre cette discussion sur les réalités actuelles du Soudan du Sud, puisqu'on a déjà largement parlé du Soudan tel quel, qui est plus au nord. Donc, dans notre prochain entretien, merci beaucoup, Monsieur Darugon, et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine.